intérêt marqué sur un sujet particulier? Jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture, contre-culture. Cet hiver, joins-toi à une équipe diversifiée qui axe son travail sur la découverte du monde sous un œil différent et qui nage à contre-courant de la culture de masse. Pour toutes les informations, www.choc.ca/s'impliquer. Le 9 mai, c'est la grande finale des Francouvertes. Participez au choix du lauréat 2016 parmi Qatar Bateau, la famille Ouellette et Mondou Seigneur. Dès 19h30, vous pourrez assister à une prestation des porte-paroles Corias et Vincent Pic. 20 ans Francouvertes, ça se fête. Pour plus d'informations, francouvertes.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Bonjour à tous et bonjour à ceux... Pardon, j'essaie de me rappeler exactement, c'est Pop 94, si je me trompe pas. Oui, parce qu'Hélène voulait absolument que je respecte l'ordonnance. Bonjour à tous et bienvenue à ce 94e épisode de Pop en Stock, le podcast pour nos nouveaux auditeurs. Sachez que Pop en Stock est une émission à la semaine où l'on consacre notre énergie intellectuelle à disséquer, à interpréter et à d'abord et avant tout s'amuser avec des objets de la culture populaire aussi divers qu'ils soient. C'est aussi un portail d'informations, en fait, et d'ouvrages académiques sur la culture pop et une édition d'essai aux éditions Tamer. Beaucoup de plaisir aujourd'hui parce qu'on va parler. C'est drôle parce que initialement, quand j'avais proposé l'émission, j'avais oublié qu'on avait fait une émission sur un sujet connexe. Et ça va, je suis agréablement surpris parce que ça va nous forcer à vraiment prendre une ligne médiane serrée aujourd'hui avec Annie Brolin. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel, ça va bien?
Ça va particulièrement bien parce qu'on va parler, j'ai comme tout fait pour l'éviter, mais si vous téléchargez le podcast, vous savez essentiellement qu'on va parler de...
T'as vendu le punch.
J'ai vendu le punch dans le descriptif de l'émission. On va parler de Game of Thrones, on va parler de A Song of Ice and Fire, donc on a parlera pas trop de la télésérie, sauf peut-être pour des major spoilers, parce que préparez-vous, on va faire... j'ai commencé à écouter A Storm of Spoilers en préparation à l'émission, qui est un podcast assez intéressant, mais qui, dans son titre, dit qu'ils vont genre juste gaspiller, gâcher tout. Des gros spoilers ou du gros bashing par rapport à la télésérie.
Ouais, des méchancetés un peu, peut-être, effectivement.
On va se donner comme mission d'être littéraro-centriste. C'est pour ça que l'émission s'appelle Song of Ice and Fire, c'est qu'on va parler des livres, on va parler de la réussite, en fait, de en quoi est-ce que c'est une réussite, comment c'est une réussite, pourquoi c'est une réussite, et pourquoi tout le reste ne l'est potentiellement peut-être pas.
Ou plus.
Ou plus. Encore plus intéressant oui. comme façon de replacer les trucs. Mais bon, on t'a eu pour l'émission de Game of Thrones.
Il y a 2 ans, presque jour pour jour.
T'es pas sérieuse?
Eh oui! Ah. C'était ma première expérience avec vous. J'étais venue parler de cette émission assez fascinante, et de ce phénomène.
Il y a 2 ans,
oui,
c'est ça.
Avec à peu près la même équipe qu'on va avoir aujourd'hui.
Oui, parce qu'on devrait avoir Samuel, t'as raison, merci de me le rappeler. Mm-hmm. Samuel qui est... présentement au colloque des femmes ingouvernables, donc il va venir faire la transition d'un instant à l'autre, mais c'est super intéressant parce que quand tu dis ce n'est peut-être plus un objet intéressant, c'est à cause du déclin des 2 dernières saisons.
Mon opinion sur la question c'est assez forgé autour de ça, effectivement. Je trouve qu'il y a il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Je pense pas que c'est volontaire, certainement pas de la part des dirigeants de HBO ou de leurs showrunners, expression qu'on peut pas vraiment traduire, malheureusement. Mais considérant que George R. R. Martin se consacre particulièrement activement à la fin, à l'écriture de la fin de sa série, et on l'espère.
Ben oui.
Il a abandonné un peu la petite mainmise qu'il y avait sur la série, puis je pense que ça peut expliquer une portion, en tout cas, de mes doléances envers HBO et leur...
Mais c'est là où ça devient... Moi, je trouve ça super intéressant parce qu'on a un bel objet avec ça. Il n'y aura plus... Parce que bon, on le sait qu'il y a la communauté, c'est une communauté qui a été fondée à peu près vers les entours de 2009 qui s'appelle les Grumblers, que je trouve super agréable, qui ont fait des trucs comme Finish the Book of George et un autre truc, Is Winter Coming? Il y a eu une belle communauté de gens qui, à cause du retard maintenant légendaire de George R. R. Martin, se sont retrouvés dans cette haine-là. Et on a longtemps, puis là, je m'inclus, je suis pas trop haineux envers George R. R. Martin, son retard.
Tu t'inquiètes qu'haineuse.
Oui, exactement.
Tu t'inquiètes qu'haineuse.
Mais là, ce que je vois comme potentialité, puis c'est vraiment à l'écoute du premier épisode de la sixième saison, j'ai fait « Wow, on a le bouc émissaire. » Ben, on a le bouc émissaire à deux têtes à ce point-ci, là. C'est que là, il y a la possibilité que toute la haine Game of Thrones
s'en aille ailleurs.
Ouais, c'est Weiss puis Benioff qui vont manger la tartelette.
J'avais commencé à leur servir un peu depuis une ou deux saisons, mais c'est vrai que il y avait eu toute cette question. C'est un classique. « Ah, oh, j'ai lu les livres, j'ai pas lu les livres. Moi, je connais les punchs, je peux te dire les punchs, mais là, on est rendu, ben, nez à nez. »
Exactement.
Mais d'un autre côté... beaucoup de fans de la série, uniquement de la série, disaient « Ben, haha, ça va être notre tour de maintenant de spoiler, de gâcher la sauce. » Mais non, parce que c'est tellement rendu différent, puis c'est tellement rendu loin du matériel, puis c'est pas une mauvaise chose pour
non,
autant.
Non.
Là où le bas blesse, c'est que des fois, ils essaient tellement de rattraper le contenu original que ça fait des distorsions sur le plan du timeline, de la continuité, de la ligne de temps. Des personnages qui passent beaucoup trop de temps en compagnie de d'autres personnages et pas assez en fonction... Ou la fusion de certains personnages je vais en parler un petit peu plus tard, est particulièrement problématique dans le cas de l'histoire de la portion de Dorne.
Oui, c'est ça, les Sand Snakes, là, c'est...
Ça, c'est assez catastrophique. Ça, je dirais qu'il y a peu de choses à faire pour réparer ça. Il y a peut-être de l'espoir pour d'autres sections.
Moi, sérieusement, à ce qui a trait de cet exemple-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir abandon total. Effectivement, j'ai le même instinct, c'est que c'est fini.
Il y a tombé la serviette. Je ne sais pas ce qu'il
peut plus rien faire, c'est ça. Puis c'est correct parce que il faut que ça aille en entonnoir maintenant. Là. On est rendu au point où est-ce que on va commencer à simplifier le récit, puis on va commencer à se dire, ben là, les enjeux, c'est ça.
Martin a le même problème lui-même dans l'écriture. Il le dit souvent. Évidemment, il ne donne pas autant de détails sur ses écueils, mais par exemple, il parlait du Marinese Knot, qui est la façon qui est de démêler toutes ces histoires, de ramener ces personnages ensemble. Ils sont tous éparpillés à travers le monde, mais maintenant, comment est-ce qu'on les ramène ensemble? Il a commencé un petit peu avec Tyrion qui rencontre Daenerys.
Ouais.
Il y a des choses qui se passent dans le Nord, on ne sait pas trop comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, mais il a le même problème, lui. Sauf que lui, c'est le capitaine du bateau. Il peut bien faire « what the hell he wants ».
C'est ça, c'est exactement ça. Puis il y a un très bel article sur Medium qui ressemble énormément de problématiques. Et à un certain point, l'auteur explique, il dit « comment est-ce que tu réussis à finir un truc? Comment est-ce que tu finis une histoire de manière cohérente quand le truc principal de ton histoire, c'est de saboter tous les processus d'histoire? Comment tu fais ça quand c'est rendu que tu as tellement transgressé les codes? » Ben là, soit que ta fin, elle est ultra conservatrice. Moi, je pense que c'est dans cette direction-là que ça va aller. Ça va finir, ça va être deux trucs, ça va être ice, fire, boom. Ou tu, malheureusement, tu finis ça d'une manière qui va laisser des gens insatisfaits.
Sur leur fin, en fait, il s'est prononcé sur la question parce qu'il continue quand même de nous donner des petits bouts par-ci, par-là pour nous rassurer ou nous garder en haleine. Mais il a dit qu'il... sa conception de la fin, de ce qu'il avait imaginé, en tout cas, ça serait bittersweet, ça serait doux amer.
Ah ouais.
Donc, je pense que ça tend un peu plus vers la deuxième option. Ça sera peut-être pas aussi conventionnel qu'on le pense.
Ça sera pas genre Daenerys qui fait boum 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 qui atterrit. Ça sera pas la fin de Conan the Barbarian, essentiellement. Moi, c'est ce que je vois là avec Daenerys.
Il reste encore 2 livres, il reste encore 1000 pages, tu sais. Fait au minimum, il peut s'en passer des choses. Puis même, genre, encore une fois, c'est My Little Bird Stole Me. il a pensé peut-être même faire un 8e livre, mais ça, rendu là, moi je veux qu'il finisse avant d'en écrire plus. Je veux au moins qu'il finisse l'histoire. Je veux une fin qu'elle soit douce et mère. Ouais. Je veux au moins avoir que ça se termine pas en queue de poisson, que ça se termine pas, que ça soit pas inachevé. Puis,
non, tu veux voir The End. C'est super correct.
Ouais, c'est ça. Il a dit aussi qu'il voulait pas que si elle advenait un malheur et qu'il quitte ce monde, il voulait pas que ça soit repris par un autre auteur, comme ça arrive souvent.
Ben, comme Brian Herbert a fait avec l'œuvre de son père pour Dune, ouais.
Qu'on parlait d'Ordon, juste avant de commencer.
Vous allez entendre énormément parler de Game of Thrones dans l'épisode de Dune qui s'en vient dans le mois prochain, je peux vous dire ça, mais je me suis dit que j'en parlerai pas aujourd'hui.
Tout est dans tout, comme qu'ils disent.
Oui.
Ben, j'ai perdu mon...
non, mais c'est vrai, avant de mourir.
Avant de mourir.
Parce que c'était ma question de conclusion. J'étais comme, puis comment on finit l'émission? Comment tu t'en tirais s'il meurt?
Je vais finir mon... Je vais finir l'émission tout de suite là-dessus. Ben, je serais bien déçu. Sachant que je veux pas non plus... C'est son œuvre, puis le leg qu'il en fait, s'il veut pas qu'on la reprenne, mais on la reprendra pas. Autant que je suis déchirée en me disant « Ouais, mais si quelqu'un le faisait pareil, tu sais... »
Oui, mais encore, ça va faire... Advenant qu'il y a quelqu'un qui le prend, parce que, bon... À ce niveau-ci, là, d'une importance d'une œuvre, c'est le bottom line qui compte, puis le bottom line, c'est l'argent. S'il y a la possibilité de faire de l'argent, ils vont le faire. Mais on va se retrouver avec la même situation que ce qu'on a avec Weiss Benioff, c'est que les gens vont dire, c'est pas R.R. Martin, paix son âme, qui a ruiné ça, c'est cette personne-là, genre.
Ben, son
c'est Stephen King. Ça va être Stephen King qui va le finir, comme c'est Spielberg qui a fini AI de Kubrick, puis il y a personne qui est capable de le gérer.
Tant mieux pour Martin dans ce cas-là, parce que sa réputation sera préservée. Mais bon, on est dans la spéculation totale et complète de ce côté-là. Par contre, on peut s'imaginer que la série pourrait survivre à la mort de Martin.
La télésérie?
La télésérie.
Oui, absolument. Assurée. Mais... en même temps, ça, c'est un truc qui est quand même très intéressant. En faisant la recherche, je me suis comme replongé dans la série de livres. Il y a un fait qui est très, très, très intéressant. Commencé à écrire ça en 1991.
Des années 90. Ça, je me souviens jamais c'est quoi la date de publication du premier. Je pense que c'est 93.
96.
96. Ouais.
Fait que 5 ans pour écrire le premier livre.
C'est pas mal que sa moyenne, parce que entre le 4e puis le 5e, c'était 5 ans. Là, on espérait, j'ai eu une alerte Google pour me dire qu'il y a des nouvelles.
Ah ouais, non, mais inquiète-toi pas, tu vas l'entendre dans la rue. Là. C'est
pas une super bonne idée, parce que je reçois des bulletins météorologiques, et c'est même pas une blague, parce que Winds of Winter, ça, c'est très large comme expression. Mais... Par contre, il était question, et c'était assez... Je pense que c'était la maison d'édition, où en fait, il y avait vraiment des rumeurs à l'hiver que ça serait avant ou après la fin de la saison 6. Donc, aux alentours de là, ça sortait mois de mars, c'était les mots qui étaient... Puis Martin avait dit, oui, ça, c'est possible, c'est dans le domaine du possible. Oublie ça, maintenant c'est 2017.
C'est ça, OK, ouais. Il n'y a plus... Ouais. Parce que, bon, aussi, pour les gens qui ne seraient pas tout à fait au courant, il y a un très drôle de rituel autour de l'écriture. R. Martin écrit encore sur un ordinateur à DOS.
Pas de connexion Internet. Je pense qu'il a peur un peu du hacking aussi. Il y a un petit peu de tout ça.
Avec
là.
Raison, oui.
Avec raison, parce que ça doit être très...
Je peux juste imaginer, là, à ce point-ci, comment que les gens veulent... Une unité d'information peut être très, très, très valable. On est rendu là dans notre époque.
Mais après la mort de Stieg Larsson, il y avait eu un litige légal autour de son laptop, étant donné qu'il y avait peut-être un manuscrit du 4e millénium. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment pas... Ça fait un peu...
Pour nous autres, c'est de la fantaisie, là, mais comme, dans l'édition, il pense très bien.
C'est possible. Fait que c'est ça, il écrit, puis il a sa propre... Il y a une maison en face de chez lui. Pour écrire tout seul, dans sa maison, avec son ordinateur. Je sais même pas comment il fait sa mise en page, en fait, mais en tout cas, pauvre lui.
Oh, il ne doit pas la faire.
Il ne doit pas la faire.
Non, non, non.
Et il a, c'est ça, il a sa façon de faire, mais il l'a dit. Pourquoi se priver? Il s'est fait inviter à voyager dans le monde, à travers le monde, pour parler, pas juste de la télésérie, mais de ses livres aussi, de son processus d'écriture. Puis en tant qu'auteur, je pense que c'est extrêmement valorisant, puis tu ne veux pas vraiment passer à côté de ça. On le comprend d'avoir profité de ça.
Ben oui. Ben surtout qu'il n'en est pas son premier livre, tu sais. Ce gars-là, ça fait 30 ans qu'il écrit des livres.
Il a écrit des affaires, des affaires.
C'est ça. Fait que là, t'as ton succès. Tu sais, t'es pas un jeune premier, là. Je veux dire, ça fait 30 ans que t'écris, puis là...
Tout d'un coup, ça déboule, puis ça clique, puis le monde veut t'entendre, tu sais.
Je pense qu'il n'y a aucune manière de contredire son choix de vie, là. C'est comme, ben non, dude, profite-en.
Fait qu'on fera pas... Je suis pas prête de faire comme dans Misery, je l'attacherai pas à un lit avec une machine à écrire, quoi que c'est à peu près... Ça semble être sa méthode d'écriture, c'est pas tellement loin. Sauf que c'est sûr qu'on l'attend avec impatience, le prochain tome, puis... On va faire la file à minuit de Black Chapters.
Ça va être complètement fou. Mais par rapport à son succès, une des affaires aussi que je trouve vraiment intéressante, c'est cette idée-là qu'il n'a pas de succès qui le précède, en fait, lui personnellement. Donc, ce n'est pas une affaire de George R. Martin fait enfin sa série qu'on a tant attendue. Song of Ice and Fire, c'est un pur succès populaire. Et c'est ce qui fait que c'est un objet de culture populaire pur, parce que il y a personne, tu sais, c'est pas hypé, c'était pas, quand le premier livre est sorti, il a été dans le bottom des listes de vente, et c'est le bouche à oreille, c'est la rencontre, c'est le tranquillement, c'est vraiment ça c'est la transmission de l'œuvre qui a fait que maintenant, bon, je pense que en avril 2015, on a déterminé qu'il y avait 60 millions de copies du livre qui avaient été vendues. Mais ce n'est pas par coup de marketing. C'est vraiment juste... Je me rappelle d'avoir été dans un salon avec... c'était au 75-10 de Normanville, chez Brent Laurent puis Al. Puis on jasait. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a quelqu'un qui a dit... le deuxième, Feast of Crows...
Mm-hmm.
Non, excuse-moi, le deuxième, c'est le doré. C'est le
Clash of Kings.
Clash of Kings. Quelqu'un qui s'est tourné à Brent qui a dit « Puis Clash of Kings », puis il a dit « Ah, je l'ai lancé sur mon mur, puis moi, j'ai juste fait comme... » Clash of Kings venait juste de sortir. Puis là, j'ai comme regardé, puis c'était comme « Qu'est-ce que je manque, là? » Puis ils sont comme « Ah, tu manques une affaire, une série de fantasy qui est tout en train de faire grimper dans les murs. » Puis je comme « Ah, ouais. » J'ai me cherché le premier, puis je me suis assis. Puis effectivement, là, c'est devenu une espèce de lecture... obligatoire. Je pense que toi, t'étais où quand tu m'as entendu parler?
C'est une bandwagoner avouée. Oui, tout à fait. J'ai écouté la première saison parce que... Même pas parce que j'avais entendu parler de ça. C'est juste parce que j'aimais le casting. J'ai dit, je vais regarder ça. Je suis une fan de fantasy. Ça, c'est admis. C'est pas un... Mais j'ai pas exploré beaucoup la littérature fantastique parce que j'avais toujours peur de tomber sur genre du lance-dragon puis des affaires un peu cheap.
Ben oui.
Puis ça aurait pu être ça. Puis j'ai travaillé dans une librairie puis je le voyais. Puis pour moi, ça ressortait pas plus que ça avant
les premières couvertures, absolument, c'était ça. La première couverture de Game of Thrones, c'est Jon Snow avec une collerette de poêle sur un cheval qui regarde genre Castle Black à distance dans la neige. Là. Non, c'est
quasiment Harlequin.
Deuxième, c'est Mélisandre, qui est comme décolleté, robe rouge, qui est comme sur le bord de la...
Ça annonce pas du tout, la couverture n'annonce pas le contenu,
pas
certainement.
Pas en tout, non.
Donc c'est ça, Bandwagoner, j'ai regardé la première saison, j'ai aimé ça, mais je trouvais ça un peu compliqué, fait que j'ai
dit à la clé.
Il y a toute une... la première saison est assez fidèle... presque mot pour mot au livre.
Pas mal,
ouais. C'est assez impressionnant, puis c'est très, très apprécié et appréciable. Par contre, j'ai attendu, avant de continuer à les écouter, fait que j'ai écouté la première saison à peu près quand elle est sortie, j'ai attendu 2 ans, j'ai écouté les 3 saisons d'une shot, puis là, j'ai fait « OK, non, ça va faire, là, on va écouter, on va s'attaquer au contenu, là. On va aller voir la vraie affaire. » Puis j'aime beaucoup, depuis toujours, je lis souvent le livre ou vois le film, peu importe avant, dans quel ordre, j'aime comparer, j'aime voir le processus d'adaptation. C'est pour ça que je trippe à faire quelque chose comme on fait aujourd'hui, parce que c'est tellement riche, il y a tellement un contenu.
C'est pour ça que tu me surprends de dire que t'es une bandwagoner, parce que t'as les manuels pis tout, je suis comme « Ah, OK. »
Oui, mais après, c'est ça, quand j'embarque, par exemple.
Oui, c'est fantastique.
Là, je m'embarque à fond, mais non, j'ai pas... je lisais beaucoup, mais je pense que, on va le dire, on n'a pas le même âge. J'étais plus dans Harry Potter, peut-être, quand...
Ah ouais, on est si différents que ça, OK.
Oui, oui. Ouais. Puis, c'est ça, elle aussi, qui est un... À un certain sens, J.K. Rowling, elle a quand même elle avait les mêmes attentes pour Harry Potter.
Ah, absolument.
Fait qu'il y a des choses qui sont intéressantes à comparer, mais elle, on dirait qu'elle avait pas mal plus... en même temps, c'est la même chose, les films jouaient d'un autre côté, puis elle faisait ses affaires de l'autre, fait qu'il y avait comme une façon, ça s'entremêlait, puis ça se faisait pas mal plus, de façon un peu plus harmonieuse, j'ai l'impression, qu'en ce moment, avec la télésérie, parce que, encore une fois, je lis des affaires, des potins, des trucs un peu partout, des affaires qui sont plus... auxquelles on peut faire plus confiance que d'autres, fait que je suis du mal plus ou moins ça, mais... Il y en a beaucoup qui pensent que Martin est en Saint-Cyboire après les showrunners à cause justement des deux dernières saisons, de la façon dont il leur a laissé les choses en main, puis là il est comme ben peut-être que vous avez fait un petit peu n'importe quoi.
Ouais, mais là c'est une position assez délicate. Mais en même temps il peut pas se le permettre parce que j'imagine que ça implique beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr que ça implique énormément d'argent. Puis deuxièmement, ces gens-là, dès les deux... En fait, quand les studios ont pris connaissance du fait qu'ils ne produiront jamais à leur vitesse, évidemment, ils ont fait, il faut qu'on commence à préparer le bateau d'urgence, puis il faut qu'on commence... Fait qu'ils ont commencé à placer les trucs. Il y a le droit d'être créativement déçu. Mais quitte à être fâché envers eux autres, je trouve que c'est quand même difficile à soutenir.
Le choix de vocabulaire est peut-être pas le bon, mais moi, je te dis ça à partir... C'est assez couper les cheveux en quatre, là. C'est genre des gens qui ont analysé son body language au Comic-Con parce qu'il y avait vraiment... Puis ça paraissait qu'il y avait des frictions, les deux assis au bout de la table. Ils se relançaient jamais là-bas. Puis j'en ai regardé beaucoup des panels de Game of Thrones, beaucoup sur Internet, sur YouTube. Puis il y en a qui avaient...
Tu vois la position fermée.
Ouais, tu vois une certaine tension. Puis, de l'autre côté, comme on disait tout à l'heure, lui, il prend plaisir à faire ça, je suis certaine, à faire cette tournée-là, d'aller parler à son public et tout. Puis là, il n'y avait pas de l'air content. Après, ça, c'est la dernière fois qu'il a parlé, fait que c'est entre la saison 4 et 5, je pense. Donc, pas cette année. On peut voir.
Ce qu'on veut, parce que pour moi, la seule histoire que je savais de ça, c'est quand Weiss et Benioff, parce que c'est pas les premiers à être venus quémander les droits. Et la légende raconte, parce que c'est littéralement une légende à ce point-ci, que quand Weiss et Benioff se sont rendus à son bureau, la seule question qu'il fallait qu'ils répondent, c'est qui sont
C'est pas une légende.
OK, ça, c'est... OK, OK. Qui sont les parents de Jon Snow?
Oui, c'est ça. Je vais laisser finir la
mais c'est ça. Et ils ont répondu quelque chose.
Quelque chose. Il n'a pas dit si c'était la bonne ou la mauvaise
non,
réponse.
Non, c'est ça.
Puis c'était... En fait, c'est encore plus...
Excuse-moi, ça a comme l'impression d'une légende tellement que c'est épique, là.
C'est le mythe fondateur de cette grande aventure. Il s'est fait approcher pour des films, pour des séries de films. Il a à chaque fois refusé parce que un film d'une heure et demie au standard d'Hollywood, ça rentrera jamais les 500 pages de chacun des livres, ça a aucun sens. Weiss et Benioff, ils avaient jamais rien produit de leur vie. Ils se sont assis avec lui en disant pour manger. Ils sont arrivés pour dîner, ils sont restés jusqu'au souper dans le resto. c'est l'histoire qu'ils racontent de fois en fois. Et ils ont discuté, c'est ça. Puis à un certain moment dans la conversation, Martin a posé la question qui est la mère de Jon Snow. Les deux se sont regardés. Puis ils ont dû répondre quelque chose qui lui a fait plaisir parce que ça veut dire qu'ils maîtrisaient assez bien le contenu à l'époque. Maintenant, quand tu regardes ce qu'ils ont fait dans les saisons récentes, t'as comme l'impression qu'ils l'ont lu juste une fois, puis qu'ils n'ont pas nécessairement aussi bien assimilé ou à comme assimiler, c'est
non, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui.
Ils sont pas aussi bien imprégnés, je trouve, de certains trucs, tu sais, de certaines particularités, du scénario, de la complexité des personnages. Dans un livre, dans une œuvre comme Game of Thrones, t'as pas de personnage principal, même si on pense en... Mais ça, je pense, c'est par les schémas aussi, le schéma narratif auquel on est habitué, mais on pense, par exemple, à la famille Stark, évidemment, parce que c'est les premiers qu'on rencontre, c'est les bons de l'histoire, c'est la famille attachante avec les personnages. Ça fait un peu de Brady Bunch, quasiment. C'est une espèce de... c'est un...
Ben, c'est par eux que tout...
C'est par eux que ça commence, c'est par eux que l'histoire s'amorce, malgré tout. Puis il y a une façon... Donc, on s'attache à ces personnages-là tout autant... Autant dans le premier livre que dans la première saison, on a vraiment l'impression que c'est eux qui vont... qu'on va voir jusqu'à la fin, jusqu'à... Ah. ouais, peut-être pas. Puis finalement, on se rend compte en rencontrant d'autres personnages, parce que ce qui est particulier avec Game of Thrones, c'est que chaque chapitre est écrit du point de vue d'un personnage. Et ça... À la décharge des showrunners, c'est très difficile à rendre en télévision.
Ben, c'est infaisable, ouais.
À moins d'avoir une narration,
ouais,
mais
ça devient malhabile si t'essaies de faire ça.
On s'entend là-dessus.
Ouais.
Par contre, si on finit par admettre que les Stark sont peut-être pas les héros de l'histoire, on continue quand même à s'attacher à Jon Snow. Parce que ça reste le personnage le plus... ironiquement, plate, le plus ordinaire, le celui auquel on peut plus s'attacher, mais... Dans les dernières saisons, tu vois la façon dont ils ont arrangé ça, puis c'est un petit peu... C'est pour voir la belle face à Kit Harington, puis ses beaux cheveux, mais il n'y a pas de jus, il n'y a pas...
Oh non,
pas...
hey man, la résurrection, moi je trouve que c'est un truc qui a été fait de façon extrêmement dolle.
Mais après nous avoir dit... Mais c'était dangereux, parce que on le savait que ça arrivait, mais il fallait qu'ils nous disent non. Fait que,
bon. Non, je parle vraiment formellement. Juste du point de vue de comment ils l'ont filmé, en fait, comme ça, c'est un des trois moments les plus importants de la télésérie, ça.
Ouais,
fondamentalement. Il y a aussi, c'est ma copine qui me faisait part de cette étude-là, que si tu fais comme l'analyse actantielle là, de Game of Thrones,
j'y étais à donner puis j'ai abandonné, je pense, parce que...
C'est Tyrion. C'est Tyrion, le personnage central, en fait. C'est lui qui est le plus présent dans le plus grand nombre de moments ou dénouements d'importance, en fait. C'est vraiment Tyrion qui est là au combat naval du deuxième livre, qui est là... Il est présent dans le plus grand nombre de moments remarquables.
Oui, son kidnapping est le point déclencheur aussi de la guerre des cinq rois. On
c'est
s'entend
vrai.
Qu'il y a quelque chose d'assez fondamental de ce côté-là. Je pense que c'est celui qui a le gros nombre de chapitres aussi. À peut-être trois près sur cinq livres, mais j'avais vu des charts puis je me souviens plus qu'est-ce
que... Bon. Mais en même temps, ça ne fait pas de lui le personnage principal.
Non, ça ne fait pas de lui le personnage principal. Puis il y a des personnages qui ont deux chapitres qui ont beaucoup à faire dans ces deux chapitres-là, proportionnellement aussi. Donc, je ne pense pas que ça vaut la peine à tant que ça c'est comme se poser la question du screen time. Combien de fois? Dans la télésérie, c'est lui qui a le plus de temps à l'écran, ça c'est certain. C'est le fan favorite. Tout le monde adore. Puis Martin l'a dit, c'est son personnage préféré. Il l'a dit à plusieurs reprises. On lui a demandé. Il a dit, ben, c'est pas compliqué.
Ouais, c'est celui que j'ai le plus de fun à écrire, fait que ça va, ouais.
De ce côté-là, il y a pas de... on se cassera pas la tête, mais la richesse de l'accès à la psyché des personnages par les points of view, les chapitres de point de vue, c'est perdu. C'était prévisible, mais ça pose beaucoup de problèmes, notamment dans ce qu'on appelle les fameuses personnages féminines fortes.
Oui.
On les trouve donc fortes, on les trouve donc bonnes, on les trouve donc belles et extraordinaires. Ouais, mais pas tant dans la télésérie. Puis c'est là où j'ai beaucoup, beaucoup de problèmes. Surtout dans les deux dernières saisons, je trouve que ça s'est vraiment résumé à peu de choses.
Ouais, mais c'est super intéressant parce que ces personnages-là, comme tu le dis, puis tu le dis bien, puis ça me fait constater, tu sais, ces personnages-là, de Catelyn Stark à
Brienne.
Oui.
Arianne Martell, qui n'existe pas dans la télésérie.
C'est vrai. Oui. Mais ils sont fortes. Ils sont très fortes de par comment ils pensent.
Dans leur...
Pas comment ils agissent.
Exactement.
Fait que là, quand on filme les actions, il y a une grande part de la force.
Il y a une façon, il y aurait, selon moi, quand même pu rattraper ça. Je veux dire, dans la saison 4, quand Sansa commence à être... devient Alain Stone, qui disait...
Oui.
Quand elle rencontre le conseil dans le verre, puis qu'elle dit à Littlefinger... Elle tient par les...
Par la bourse.
Par la bourse.
Double entente.
Exactement. Ça, c'était une... C'est pas dans le livre, et c'est une réussite. J'ai adoré ce moment-là dans la télésérie. Pour que la saison suivante, elle devienne une victime.
Ouais.
Encore une fois, parce qu'on a mixé les personnages, ça revient un peu à ce que je disais au début, elle prend le rôle de Jane Poole, qui est un personnage très... qui est sa meilleure amie, qui ont père pendant deux livres, puis là, il la renvoie à Winterfell en la faisant passer pour Arya Stark.
Ouais!
Et tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Puis une des raisons aussi pour laquelle... J'ai plein d'autres exemples.
Oui, non, mais celle-là, tu vois, je l'avais complètement oublié.
Ouais.
Que c'est Jane Poole qui tombe sous les griffes de Roose Bolton.
Oui, de Ramsay, en fait.
De Ramsay, pardon, oui. Ouais.
Et ses chiens. Il y a un problème dans la continuité. Sansa devient... Puis elle apprend, mm-hmm. c'est ça qui est intéressant dans les... Puis c'est une des personnages les moins appréciés des fans, puis ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que justement, c'est celle qu'on voit le plus de l'intérieur. C'est celle qui mm-hmm. apprend, qui grandit le plus. Elle est la petite fille qui rêve à des contes de chevaliers, de princesses et de demoiselles en détresse, puis éventuellement devient une mastermind en suivant, en observant Littlefinger, en devenant une vraie stratège, mm-hmm. au même titre que cette espèce de mentor un peu creepy. Puis là, dans le show, ben, elle redevient victime, comme ça. Mm-hmm. Il y a tout ça pour ça. Je comprends que ça, d'un autre côté, c'est un monde féodal, la condition féminine, on n'est pas exactement dans les mêmes schèmes de référence, mais il y a quand même une limite, je trouve, à faire ça de façon aussi gratuitement, aussi. Puis ça, c'est un problème, la violence, la façon dont ils présentent la violence envers les femmes de façon aussi cage, aussi.
Du derrière dans la main très. Ben, essentiellement, ça, c'est je partage ce sentiment-là de dégoût. Moi, il y a eu des moments que j'avais beaucoup de misère avec le tu sais, j'avais beaucoup de misère avec le show parce que j'étais pas capable d'outrepasser ça.
De regarder. Moi, j'étais carrément plus capable de regarder. Après chaque épisode de la saison 5, j'avais un sacre qui me sortait parce que j'étais vraiment dégoûtée. Ça devenait trop facile. C'était le go-to. Ça devenait facile. Bon, ben, elle se fait foutre une baffe. Wow, on voit un viol en arrière-scène. Hey, on nie pas que le viol est présent dans l'histoire. Brienne se fait menacer, entre autres, c'est mentionné. Martin est pas pudique de ce côté-là. Mais ça reste...
Mais là, quand ça devient des artifices, ça devient juste des trucs pour...
Montrer des bouts.
Ouais, ça, c'est... C'est
très, très... C'est très de mauvais goût. Mm-hmm. Cersei aussi, là, quand elle rencontre Jamie, puis que fameuse scène à côté de...
Le viol de la carcasse, là, Parce que, ben, pas comme ça, mais ouais. sur la dépouille, pardon. Sur la dépouille. Ou à proximité de la dépouille.
À très forte proximité. Ouais. La scène est beaucoup plus... La scène est du point de vue de Jamie dans le livre. Le consentement n'est pas aussi... il prend moins de temps à venir, mettons. T'sais, c'est elle-même qui engage le
rapport.
Le rapport. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais... Et la façon dont les fans se sont...
Oui, parce que c'était vulgaire.
C'était vulgaire, mm-hmm. mais c'était aussi violent pour aucune raison. La scène est consensuelle dans le livre. Pourquoi est-ce que t'en fais un viol dans la série? Mm-hmm. La même chose, Drogo puis Daenerys, la première fois, c'est pas aussi...
Non, dans le livre, c'est... Ben, dans le livre, c'est choquant au début, mais elle comprend finalement que... Ouais, en même temps, quand je le dis de cette manière-là, c'est pas vraiment...
Non, il y a pas de façon, de dire ça acceptable, mais c'est pas... Il y a un degré beaucoup... beaucoup moins choquant dans le livre.
Ouais.
C'est choquant parce qu'elle a 13 ans. Mais
t'as accès aux paroles, t'as accès à toute l'intériorité du personnage. Fait que tu finis par faire comme, OK, ben au moins t'es en train de dire ça au lieu de. T'sais, alarme. Puis ça, c'est aussi un des gros problèmes aussi que comment la caméra va changer notre perspective. C'est que lors de ces moments-là très controversés, on a tendance à les filmer un peu. Catatonique. C'est plutôt, tu sais, je pense beaucoup à Sansa à Bolton Castle, tu sais, comment est-ce que le regard vide, malheureusement sur caméra, ne veut pas dire la même chose que je suis tout en train de machiner à l'intérieur de moi-même. C'est pas ça.
Non, puis il y a aussi le fait que la caméra tourne vers Tyrion, qui est un témoin de cette chose-là. Évidemment, peut-être parce qu'il se disait que de la voir en train de souffrir, c'était encore pire. Mais il y a eu d'autres critiques en disant, ben là, on fait souffrir une fille pour faire émerger des émotions dans un personnage masculin. C'est d'autant plus pervers, c'est d'autant plus... Ouais. Mais au-delà de ces choix très, très douteux, et il y en a plusieurs en termes de mise en scène de violence envers les femmes, mm-hmm. c'est la façon dont ils se sont tellement... Ils se sont sauvés de donner aucune explication. Je vais recommencer cette phrase-là. Les showrunners se sont presque jamais prononcés sur ça. Ils se sont vraiment mis le pied dans la bouche à plusieurs reprises. Et c'est, par exemple, dans la scène entre Jamie puis Cersei, c'est Nikolai Coster-Waldau qui a offert une bonne explication. Lena Headey était...
Ben, c'est bon. Ouais.
Natalie Dormer, qui joue Marjorie Tyrell, ouais, s'est prononcée sur une conversation qu'elle avait eue avant le film qui tourne la scène.
Okay.
Fait que c'est ces informations-là que tu es obligé d'aller chercher de la part des... C'est pas aux comédiens de se prononcer sur les choix des réalisateurs puis des scripts. La même façon, Sophie Turner, qui joue Sansa, même chose, elle a dit, ben, c'est comme, elle fait peut-être qu'elle choisit de jouer à la victime.
Glissant.
Kit Harington aussi s'est prononcé, puis ça, il dit, ben, c'est peut-être plate à dire, mais oui, il y a de la violence qui existe dans les couples aussi.
Oui.
C'est la réponse la plus plate et la plus triste, mais en même temps la plus...
acceptable
ou accessible.
Ouais, accessible, c'est vrai, c'est bien dit. Mais c'est drôle parce que je ne crois pas, c'est là où je trouve que ton argument tient la route, c'est que R. Martin n'a jamais eu à se défendre. Là, il y a quand même des... C'est quand même très intéressant. Parce
j'opine. Je suis d'accord avec Jean-Michel là-dessus.
Tu sais, il y a des trucs, des analyses très intéressantes par rapport à comment est-ce que c'est en train de se vivre, ce fandom-là, du fait que, comme on le disait, ça a été écrit dans les années 90. Ensuite, ça a été récupéré parce que c'est définitivement un projet qui a été considéré à cause de qu'est-ce qu'on appelle le Golden Age of Television, qui est les années 2000.
Tout à fait.
Fait que ça a été conçu comme un projet... ça a été conçu comme les c'est qu'est-ce qu'on appelle les five modern masterpieces, c'est Sopranos, Wire, Deadwood, Mad Men, Breaking Bad,
qui sont presque toutes des productions d'HBO.
Oui, 3 sur 5. Mad Men a failli être une production d'HBO, il s'est fait vraiment maltraiter un super beau livre, un bel essai qui s'appelle Difficult Men sur la position des protagonistes masculins en télévision moderne, bon, Tony Soprano puis ainsi de suite. Il parle de ça comme à Matthew Winner, c'est fait comme un peu tout ton petit projet à HBO. Bon, fait qu'il a fait comme, ok, on va t'arranger ça. Donc, tu sais, prendre ce climat-là de télévision, où ce qu'on complexifie des situations sociales à travers la fiction. Et là, on est rendu à une situation que j'ai découvert à cause de la recherche de l'émission. Vers les alentours de 2012-2013, on atteint un truc qui s'appelle Peak TV.
Okay.
Donc, on vole une expression écologiste, le Peak Oil. Cette idée-là qu'on est rendu on a tellement été chercher du fossil fuel que là, on est rendu qu'il ne peut n'en avoir que moins à partir de maintenant. Nous sommes actuellement dans un climat de Peak TV. Il y a trop de télévision pour être capable de consommer et on ne reviendra plus jamais à produire autant de télévision. C'est trop fait, là. Là, on ne peut plus suivre. Tout le monde écoute juste Game of Thrones et Walking Dead. Arrêtons de produire des trucs à gauche et à droite. Fait que trois époques différentes, des années 90 au modèle des années 2000 et maintenant dans ce climat-là où HBO, on se l'air pas, c'est un gros, gros studio, mais là, ils sont pris dans cette situation-là que Game of Thrones est à peu près le seul truc lucratif. Ben, lucratif, peut-être que j'exagère, mais s'il y a une gouverne au bateau, c'est Game of Thrones. Mm-hmm. Fait qu'ils doivent tourner autour de leur auditoire, s'assurer que tout fonctionne pour tout le monde. C'est ça qui est assez étrange.
Parce que c'est pas vraiment ça.
Non.
Parce que c'est pas ça qu'ils font. C'est ça qui est absolument ironique, parce que il y en a... les critiques des fans, c'est la chose la plus difficile à gérer, la plus difficile à contrôler, on le comprend, là, mais c'est des gens, tu sais, justement, ils vont à chaque année à Comic-Con, ils vont à chaque année faire ces gros événements-là où ils ont accès et privilégié à ce que, tu sais, ce que les gens leur disent.
Le feedback n'a jamais été aussi gros, c'est ça.
Puis il n'y a pas... Bon, on dirait que ça fait deux épisodes, la saison 6, là.
Ouais.
On verra bien, là. Sur le plan scénaristique, il y a des choses un peu étranges qui sont passées, mais peut-être qu'il y a, des critiques qui ont été un peu plus prises en compte là-dessus. On le sait pas encore. D'un autre côté, effectivement, c'est un gros morceau. Là, je pense qu'ils ont confirmé jusqu'à la saison 8, ou 7 ou 8, affaire comme ça. Je sais qu'ils avaient confirmé un bloc de deux saisons. Il me semble que c'est 6 et 7, ou peut-être 8, je le sais plus trop.
OK.
Mais comme tu disais tantôt, entonnoir, va falloir qu'on on coupe, là, on trim, on fait ça neat, on fait ça bien coupé, bien, bien logique et bien...
Ben oui, parce qu'il faut qu'on faut à un certain point commencer à retomber au noyau central du conflit. Là.
D'autant plus qu'ils ont passé une saison sans un des personnages principaux, même si, bon, sans Bran. Bran a été complètement occulté dans la saison 5.
C'est vrai. Il est tabarouette, c'est vrai.
Puis il revient, mais là... D'un autre côté, ils font du ménage à Dorne, mais ils ramènent les personnages des Iron Islands. Fait que là, ils se donnent du trouble, en même temps, ils se donnent des moyens, mais ils se donnent du trouble en même temps. Fait que on sait pas trop comment ça va se placer. Mais Dorne, en tout cas.
Je pense que on revient à l'argument qu'on faisait en début d'émission. Dorne, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir. Mais que c'est comme. On va fermer ce chapitre-là.
On a un
Good morning, Westeros!
Salut, sir.
Comment ça va, les amis? Vous étiez en train de parler de trucs intéressants de l'épisode d'hier, de la problématique, finalement, des chemins divergents auxquels on est confrontés.
Et
de ce qu'ils appellent l'effet papillon aussi. Oui. La façon dont leur continuité est un petit peu amochée, quand ils mixent des personnages ensemble, puis ensuite la façon dont les motivations... C'est l'autre qu'on allait aussi, la façon dont les motivations des personnages qui mixent ensemble, ils ne fitent pas, fait que là, ça fait exploser des affaires.
Ouais.
Mais on va laisser la...
Il a couru un peu, ça fait qu'on va le laisser...
Ben là, je suis en train de reprendre mon souffle, m'excuserai.
Puis en même temps, c'est une belle façon de l'intégrer.
Organiquement,
là. Oui,
ben je pense que c'est là où j'en suis dans ma réflexion. Je sais que la première fois qu'on avait fait une émission, on a comme oublié qu'on avait déjà fait une émission.
Moi, j'ai complètement oublié.
Moi, je m'en rappelais.
Mais oui, c'est ça.
C'était ma première fois.
J'ai comme, comment ça fait qu'on a rien fait du Game of Thrones encore? Moi, je l'ai fait.
Mais moi, j'ai parlé, on sait que j'ai un projet, j'en parle un peu, pas trop parce qu'on veut pas se faire scooper ou voler ce qu'on est en train de faire, mais on a un projet de narratologie statistique, littéralement, sur Game of Thrones, donc avec un bon ami à moi, mon cousin, en fait, qui est statisticien, et quelques-unes de mes brillantes étudiantes, Sarah Grenier est avec moi au départ sur le projet, maintenant c'est surtout Fanny Demulle. On travaille à calculer, plus ou moins, l'espérance de vie des personnages de Game of Thrones, en essayant de comprendre comment ça marche. Et bien sûr, cet exercice-là, qui est un peu, du cabotinage, est un prétexte pour essayer de comprendre, finalement, comment marche cet univers-là. Mm-hmm. Et moi, je me suis rendu compte, c'est de ça dont je voulais parler un peu aujourd'hui, c'est que plus on avance, finalement, dans l'expansion de cet univers-là, plus je me rends compte que peut-être mes intuitions de base étaient pas nécessairement mauvaises, mais... Elles se sont déplacées un peu. C'est-à-dire ce que je disais au départ, si je me répète, c'est que pour moi, il y avait deux choses qui différenciaient Game of Thrones de la fantasy classique, disons. T'sais, donc, si on compare, disons, Seigneur des Anneaux, par exemple, et compagnie, donc des univers de fantasy à la base. Donc, le premier, c'était à travers les POV characters et ce fonctionnement-là.
On en a parlé.
La dualité. Ouais. Hein, de la dualité qui était plus manichéenne parce qu'il pouvait se passer des choses absolument extraordinaires. À la télévision, comme dans les livres, moi, entre autres, c'était mon rapport à Jaime Lannister, qu'à la fin du premier bouquin, de la première saison, s'il mourait pas, j'arrêtais de le regarder, je veux qu'il meure.
On est un petit peu tous passés
par là. Et oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je l'aime. Je pense à Jaime, je pense à quelqu'un que j'aime. Donc là, on a tous pu vivre ces story arcs-là et ces évolutions-là parce que, justement, les points de vue étant là, on n'est pas dans un manichéisme standard. Ouais. L'autre chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est ce que j'avais appelé mon concept que j'appelle l'immunité consolatoire. Le fait que ça s'est levé, donc finalement, ce qu'on a vécu avec la mort de Ned Stark, qu'il a fallu comprendre, c'est-à-dire qu'à un moment donné...
C'est le no one is safe.
Oui, no one is safe. Et non seulement no one is safe, mais avec la mort de Ned Stark, c'est pas juste no one is safe, c'est que ce qu'on a aussi, par exemple, avec des séries comme The Walking Dead, c'est que non seulement ton personnage préféré peut mourir, mais peut mourir d'une façon complètement cruelle, absurde, inutile, donc comme s'il avait été arraché de l'intrigue et jeté aux poubelles, tu sais, par une espèce de jeu de loterie méchant, tu sais, que bon, c'est tombé dessus, puis tout à coup, paf, on te l'arrache. Et quand je dis que c'est en train de changer, ben là, bien sûr, est-ce que t'as fait le spoiler warning
Début?
OK, donc faut que je parle.
Si les gens l'ont pas compris, ben, ils sont un petit peu...
Là, je m'apprête à vous dire quelque chose que vous saviez déjà de toute façon, même si vous êtes pas à jour dans vos visionnements. Donc, Jon Snow n'est pas mort. Hein? Donc, Jon Snow est revenu, c'est-à-dire à bien des égards. Et ça, ben, Je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'aborder, si vous êtes allé jouer... OK, pas encore.
Moi, j'ai trouvé ça dull.
Je veux pas me répéter. Ben, j'ai trouvé ça dull. On en parlait, toi et moi, ce matin. C'est-à-dire il y avait quelque chose de très, très déceptif dans le fait que, tout à coup, cette série-là, pour la première fois, te donnait exactement ce que tu voulais. Et tu te rendais compte que le rapport avec la série, c'était justement... Ben, moi, je parlais de la mort de Ned Stark, c'est de dire... Moi, j'avais passé la semaine à être, ben là...
C'est pas vrai. Mais non, voyons alors.
On n'a pas vu l'épée, donc il est arrivé quelque chose à la dernière minute. Le chevalier a crié, il l'a gracié. Et là, le premier plan de l'épisode suivant, c'était la tête de Ned Stark sur un piquet. Mm-hmm. Avec, là, si t'as pas compris, comprends, là, il est mort. Et donc, avec Jon Snow, il y avait tout ce rapport-là. Moi, j'ai passé la semaine depuis la diffusion du premier épisode à dire, c'est sûr que, bon... En plus, ils nous ont enlevé les Stoner de la série. Ça fait qu'il y a Mélissandre, mais on sait que Dondarrion, on a vu une résurrection, tu sais.
Oui.
On sait que les Stoner, c'est le même dieu, c'est les mêmes... Pas les Stoner, mais Mélissandre, pardon. C'est les mêmes dieux, c'est bon. Donc, tout était écrit, tu sais, tout ça voyait. Était scripté. Et moi, ma blonde avait une réflexion très intéressante. Elle dit, ça, c'est un jeu. Ils vont encore nous décevoir. C'est-à-dire, on va passer 2-3 épisodes à se dire... Ils vont le ressusciter, puis finalement, ça n'arrivera pas. Et finalement, ben exactement comme tu disais, quand ça arrive, là, tu dis, c'est vraiment une résurrection de comic book, finalement. Là, c'est Captain America est mort, de retour la semaine prochaine. T'sais, Superman est mort, de retour dans 2 numéros. Cloné, c'est-à-dire, ben oui. Oui, puis finalement, même t'en as fait 4, mais 3 numéros plus tard, le vrai
revient, il y a une coupe longueuil, il est un peu christique, puis toi, t'es correct.
Oui, c'est ça, tout repart, puis tranquillement, pas vite, ces traits-là disparaissent. Et t'es revenu à la case départ.
Mais qui sait, il va peut-être mourir au prochain épisode, juste pour vraiment défaire tout ça.
Mais ce qui est particulier, moi, mon hypothèse au départ par rapport à Game of Thrones, c'est de dire que la différence entre la fantasy classique, c'était des principes de fonctionnement. Ça ne marchait pas de la même façon. Puis ce que je suis en train de me rendre compte, c'est que d'une certaine façon, plus ça avance, plus la différence, elle est plutôt au niveau de l'échelle. C'est-à-dire, c'est un univers de fantasy qu'on a vu à une autre échelle. Tu sais, c'est-à-dire qu'on voit des parties de l'univers que normalement, si tu suis la communauté de l'anneau dans les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, tu croises ces gens-là, mais là, tout à coup, on voit tout le monde. Mm-hmm. Fait que finalement, d'une certaine façon, quand Ned Stark s'est fait tuer, c'est pas un personnage principal qui s'est fait tuer, c'est un personnage hyper secondaire, tu sais, parce que la grande quête qui est en train de se dessiner, et c'est là que je dis qu'il y a un changement d'échelle, c'est que finalement, le manichéisme y revient parce qu'on sent que les White Walkers, The Others vont arriver à un moment. Et donc, tout ce qui va être la guéguerre de sac à main, le tirage de couvertes, va devoir se régler parce qu'il y a une menace. Comme c'est arrivé dans la Guerre des Étoiles quand l'Empereur arrive, ça permet de régler le conflit. Ouais. Comme c'est arrivé, comme l'agent Smith fait la paix dans The Matrix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enjeu, c'est plus nous autres contre les machines. C'est y a l'agent Smith et donc là, tout à coup, mon ennemi se règle. Ça fait que là, j'ai l'impression qu'au niveau macrocosmique, on a... T'sais, j'ai un peu... ce pressentiment-là qu'à un moment donné, tout va se régler. Et tout est en train de se régler quand tu y penses, parce que qui on a vu mourir depuis le début de la dernière saison? Oberyn Martell, dead.
Ah oui.
Doran, pardon.
Oui. Oberyn, c'est la vipère, c'est vrai, c'est avant. Donc, Martell, dead. Greyjoy, le père, hier. Ruse Bolton, par son fils. Ça fait des méchants, les patriarches, il n'en reste plus beaucoup, hein.
Ben non, parce que
les têtes ont roulé. Donc, du conflit original, Stannis à la fin de la saison dernière, Lannister père. Donc là, il y a pas mal de têtes qui ont roulé. Donc, le conflit très, très politique qui s'est incarné dans les 3 derniers tomes, il est presque déjà fini d'être liquidé.
Mais c'est à peu près ce que Greyjoy dit, War of the Five Kings, Three of them are dead, ou quelque chose comme ça, tu sais, on passe à autre chose, mais bon, c'est malheureusement pas aussi...
Oui, mais c'est intéressant parce que là, on se retrouve à avoir ces enfants-là qui ont grandi dans le War of the Five Kings, qui sont potentiellement l'histoire principale. C'est de dire...
Mais moi, j'ai l'impression, c'est ça que c'était la comparaison que je te faisais ce matin, mais c'est de dire, c'est que là, on a l'impression que le récit classique, c'est-à-dire la lutte plutôt du bien contre du mal ou de l'homme contre ce qui est le contraire de lui, va arriver. La figure classique, finalement, de la magie comme justice immanente va arriver. C'est-à-dire que là, on sent que tous les enfants qui vont être appelés à se venger sont d'une façon ou d'une autre des créatures magiques. C'est-à-dire Dany avec les dragons, Jon Snow en tant que ressuscité avec son lien avec le chien, Bran qui est en train de devenir une espèce de ninja du psychisme. Donc là, tout le monde, Arya qui est en... C'est-à-dire tout le monde est en train de devenir Jedi d'une façon ou d'une autre pour pouvoir avoir sa revanche. Mais finalement, ça sera pas tellement une revanche. Je pense que ça va être juste les vrais défenseurs du realm, du royaume.
Ouais, ça va être ces cinq guerriers élus comme dans Freddy 4.
Ouais. un grand classique qu'on ouais. mentionne pas assez souvent. Mais tu vois que l'équilibre change un petit peu. Puis moi, la comparaison, c'est de dire finalement, Game of Thrones, c'est comme si on aurait commencé Le Seigneur des Anneaux 25 ans avant dans le Gondor. Puis qu'on aurait eu toutes les petites chicanes, qu'est-ce qui se passe dans le Gondor, les hommes. Puis tout à coup, on serait arrivé tranquillement vers Sauron is back for real, tu sais, d'une certaine façon.
C'est intéressant parce que d'une certaine façon, tu reprends exactement ce dont on essayait de faire une hypothèse de la fin, comment les deux prochains livres vont clore la grande histoire. Puis on avait le choix soit entre quelque chose de très doux amer qui est annoncé par Martin, c'est ce qui s'est prononcé en disant ça risque pas de pas faire plaisir à tout le monde, ou quelque
chose
de très...
Mais ça fera jamais plaisir à tout le monde.
Non. De quelque chose de très traditionnel. Good versus evil. Puis c'est ça, les White Walkers, the other, c'est ça, l'autre... l'inconnu, l'ennemi,
ce qui n'est pas nous, là, comme tu disais.
Oui, mais ce qui n'est pas nous, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand je reprends mon concept, quand je parle d'immunité consolatoire, c'est un peu de dire ça. Il y a des personnages qui ont l'immunité parce que, non pas qu'ils vont pas mourir. La façon dont les personnages meurent en culture populaire, c'est de dire, tu sais, s'il y a Bruce Willis dans le film, il va mourir peut-être, mais en détruisant la météorite qui allait détruire la Terre. Donc, il va mourir pour quelque chose. On va le sacrifier au sens religieux, c'est-à-dire il va avoir un sacrifice. Oui, il va mourir, mais ça va être en faisant pleurer Liv Tyler et Ben Affleck et tout est sauf.
Et l'Amérique.
Donc, ce dont on avait l'impression qui avait été complètement changé, que cette game-là avait changé dans Game of Thrones, là, on se rend compte, Jon Snow, il ne pouvait pas mourir comme ça. Rien interdit qui meurt à la fin. Entre tes deux hypothèses, peut-être que les deux vont être vraies. C'est-à-dire que finalement, les humains vont gagner contre les White Walkers. Il va y avoir plein de morts là-dedans, mais ça va être une mort pour sauver...
Des morts valables.
Morts valables. Parce que en ce moment-là, sincèrement, Jon Snow, on le savait. Qui pense vraiment que Dany peut mourir dans Game of Thrones aujourd'hui? On sait bien que non, là.
Même chose pour Tyrion.
De toute façon...
Ouais, Tyrion,
Tyrion, ça m'étonnerait. T'sais, on le sait que notre...
Tyrion va mourir avant la fin.
Qui?
Tyrion va mourir avant la fin, ça, je suis absolu.
Probablement en nous faisant pleurer comme Spock dans le Spock. T'sais, c'est-à-dire, il va avoir une mort...
Spike dans Buffy.
Ouais, voilà. Ouais. Il va avoir ce genre de mort-là, sacrificielle. Mais honnêtement, on sait bien qu'il y a des gens, finalement, qui ont t'sais, un petit joker dans la main, à qui ça pourrait pas vraiment arriver. Je suis pas mal, t'sais, je suis de plus en plus convaincu de ça, à bien des égards.
J'ai beaucoup cogité sur la question de Jon Snow avant la fin de... En lisant la fin du livre et éventuellement en arrivant à la fin de la cinquième saison, puis la raison pour laquelle cette immunité consolatoire, que j'aime beaucoup le concept et l'appellation d'ailleurs, l'importance de ce personnage-là, je pense que c'est d'où il provient, qui sont ses vrais parents. Ouais. Je pense que c'est tout de là que ça vient. Puis c'est grâce à ce mystère-là. C'est pas tant de mystère, justement. Est-ce qu'il va ressusciter? Est-ce qu'il ressuscite pas? On s'y attendait tous. Ou il allait se transférer dans Ghost, ou il allait avoir une façon.
Il allait avoir une façon. Donc, je pense que t'as raison.
On pouvait pas... Même si c'est un espèce de cliffhanger un peu cheap, on le voyait venir. Ouais. L'importance de c'est pas qu'il revient, c'est de savoir éventuellement qui c'est, d'où il vient.
Ouais.
C'est ce qui est apparemment annoncé dans le prochain épisode.
OK.
Bran retourne dans le temps, voilà. Et voit des choses qui pourraient éclairer un peu
est-ce
le
que, mystère. Est-ce que dans les livres, moi j'ai pas lu le dernier chant, est-ce qu'il y a eu plus d'indices que dans la série, là-dessus, dans le grand wiki de qui est Jon Snow?
Les théories se multiplient sur Internet.
C'est ça. C'est ce que j'ai vu.
Martin s'est prononcé sur la question en disant « Mes fans sont vraiment... très, très perspicaces. Ils ont découvert... Ils ont élucidé un de mes mystères. » Il n'a pas dit lequel. On devine pas mal tous que c'est celui-là.
Ouais.
D'un autre côté... Sean Bean, l'acteur qui jouait Ned Stark, a raconté en entrevue que... Je ne sais pas s'il a fait ça pour chaque saison, mais Martin, pour la première saison, a vu chacun des personnages dits principaux, assez dominants, et il leur a donné une information qui n'était pas dans le livre.
OK.
Pour les aider... pour les aider à faire de l'acting, finalement.
Ouais.
À comprendre le personnage à l'intérieur. On devine que
Sean Bean, c'est quelque chose.
C'est quelque chose par rapport aux parents. Parce que moi, personnellement, je pense pas que Ned Stark est le père de Jon Snow. Mais
non,
bon,
moi non plus.
C'est, voilà. Ben, ça peut faire un troisième épisode. Juste là-dessus. Et il l'a dit en entrevue, et probablement qu'HBO était pas très content. Come on, Ned Stark, c'est pas le père de Jon Snow. Mais c'est un truc qui a passé vraiment. Ouais. Mais c'est une entrevue qu'il a dû faire comme trois ans.
Je pense que
après.
Son agent avait quelques messages sur sa boîte vocale le lendemain, comme.
Qu'est-ce que t'as fait là? C'était pas comme après la première saison.
Non,
c'est vraiment quand il était passé en dessous du tapis de plein d'autres nouveaux personnages et ainsi de suite.
Bon, ouais. Mais je pense qu'on se dirige en même temps. Avec Dany, je disais, bon, la Khaleesi, on sait qu'elle va pas mourir parce que d'une certaine façon, elle est là. Il n'y a rien à faire avec elle depuis tous les... Tu sais, je veux dire, c'est toujours la même affaire que ce qui arrive à
d'une ville à l'autre, c'est la même.
Oui, puis tu sors des bateaux, tu pars en armée. Là, j'ai une armée.
Elle n'a rien à faire sauf gagner à la fin. Là. Elle n'a rien, tu sais, sauf arriver puis être Carrie versus...
Puis faire grossir ses dragons. Oui, puis faire grossir.
Ça fait que tu vois que ça piétine. Puis moi je pense, et ça m'a presque inquiété avec l'affaire de Jon Snow, c'est-à-dire que moi qui est en train de faire des algorithmes, tu sais, avec des mathématiciens pour essayer de déjouer l'affaire, c'est-à-dire je suis en train de le faire presque moi tout seul sur le coin de la table. Puis là, j'ai peur avec, surtout avec la narration qui dépasse dans la série puis versus les bouquins, j'ai peur que finalement on arrive à un moment où on aura eu tellement le temps de tergiverser. Tu sais, dans le cas de Jon Snow, on la dira pas, on va être spoiler, mais je pense qu'on a la même hypothèse pas mal. Tu sais, il y en a une qui est en train de gagner. Ouais. Avec ce qui vient d'arriver avec sa résurrection, ça m'étonnerait qu'on ait tort à ce point-là. Peut-être que Martin va se fâcher puis va dire je vais en prendre une secondaire. C'est un autre facteur qui est encore en train d'écrire.
Il s'est fait poser la question souvent aussi. Si vous vous rendez compte que vos fans ont compris la patente, est-ce que vous allez changer? Puis ben là, regarde, j'ai fait tout ça pour ça, là, je vais pas recommencer.
Ouais.
Il a déjà mentionné à plusieurs reprises aussi qu'il construisait son histoire comme un jardinier, un gardener. Donc, il prévoit pas nécessairement à l'avance, mais j'imagine qu'à partir du moment où il a une idée dans la tête, puis qu'il a construit, justement, ben il va pas tout défaire.
Ben non, mais de toute façon, le mariage est tellement plus complexe. À la limite, il pourrait changer dans la série, parce que dans leur simplification, ils ont d'autres chemins à prendre, mais le mariage, dans les bouquins, avec tout ce qu'on sait, puis avec tout le rhizome, finalement, tout le côté, justement, arborescent de ça, il peut pas jouer dedans tant que ça, je pense pas.
Parce qu'ils l'ont fait pour la série, puis ça a fait des problèmes. Il y a eu des problèmes par rapport à ça, puis c'était inévitable, puis on peut pas leur en vouloir jusqu'à une certaine mesure. Je trouve que, justement, mon argument au début de l'épisode d'aujourd'hui, c'était les deux dernières saisons, ça commence à...
Dernière particulièrement, c'est-à-dire les deux derniers épisodes, là, tu dis... La 5, il y avait déjà beaucoup de moments où, là, tout à coup, tu t'es entre ce que tu ne peux comprendre que si tu as lu les livres, mais qui, en même temps, est une simplification. Ça fait que les gens... Moi, ma femme qui l'écoute avec moi, elle a pas lu les livres. Donc, il y a des moments où, là, des fois... Tu sais, on n'a pas vu Bran au complet de la saison 5. Mm-hmm. Ils reviennent dans... c'est qui, lui? Puis en plus, il vieillit, c'est-à-dire Bran, il mesure 7 pieds 2. Là, t'es comme, c'est qui, lui, déjà? Ah oui, c'est le fils. OK, hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas une nouvelle de ces gens-là. Mm-hmm. Puis la même chose quand on revenait dans les Iron Islands, tu sais, quand le père, comment il s'appelle, Greyjoy? Balon. Et là, quand t'es comme, OK, c'était qui? Ah oui, ça, c'était ça.
Refaire la carte.
Ça fait, c'est ça l'affaire, c'est que d'une certaine façon, dans les livres, tu peux avoir le rappel, t'as cette géographie-là qui se dessine en temps réel, alors que là, dans la série, en simplifiant finalement, puis comme vous étiez en train d'en parler quand je suis arrivé, c'est-à-dire là, il y a la question où tes motivations, comment tu vas les faire agir. Moi, une des victoires que je donnais à Wes et Benioff, d'une certaine façon, c'est comment ils avaient réussi à rendre Cersei plus cinématographique et un peu moins dérangeante. C'est-à-dire, dans les livres, on l'aime parce qu'elle est conne, puis elle est vraiment... tu sais, je veux dire, dans Feast of Crows, c'est même le seul intérêt du livre, c'est de voir à quel point...
Elle est paranoïaque, puis elle...
Oui, puis elle est grandiose de conneries, là, elle n'arrête plus. Donc, ils l'ont beaucoup humanisée. En même temps, ses actions deviennent presque incompréhensibles. C'est-à-dire, ils ont presque franchi un Rubicon où faut qu'elle fasse les mêmes choses que sa contrepartie livresque, mais elle est plus cette femme-là dans les livres qui est parano, d'une ambition dévorante. Ça fait que là, des fois, c'est dur à supposer comment la faire agir.
Faut que je vous coupe. C'est épouvantable comment il faut que je vous coupe.
C'est terrible.
Je le sais, c'est dégueulasse. Hein?
Ouais, peut-être que
tu veux ta troisième émission. Hein?
on va être obligé de faire un tour de deux à la fin de la sixième, Jim.
On va
se reparler. Ben oui.
Okay.
Pas le choix.
Est-ce que vous êtes correct avec ça?
Moi, ça me ferait un plaisir immense de revenir.
End of part one.
C'est bon.
Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Annie. On se revoit à la deuxième partie.
tu as un intérêt marqué sur un sujet particulier, jusqu'au 4 mai, soumets ton projet d'émission et tu pourrais devenir un des collaborateurs de Choc.ca dans notre programmation d'été 2016. Tous les sujets sont permis. Information, sport, environnement, politique, humour, musique, culture,